Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la troisième leçon dans une série sur les conversions dans le livre des Actes. Aujourd'hui, nous continuons d'examiner la conversion de 3000 personnes le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2. Dans notre dernière leçon, nous avons parlé de la conversion de 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Quand on dit le mot « Pentecôte », la première idée qui vient à la tête de beaucoup de gens est l'idée des miracles et le parler en langue. Mais les miracles qui ont eu lieu le jour de la Pentecôte n'étaient qu'une manière d'attirer l'attention des hommes sur un message très important de la part de Dieu. Plus important que les miracles, et le fait que l'évangile de Jésus-Christ fut prêché pour la toute première fois en ce jour. L'apôtre Pierre a proclamé publiquement non seulement la mort de Jésus pour les péchés des hommes, mais aussi sa résurrection d'entre les morts et son ascension. C'était un message de condamnation, puisque Pierre rappela aux auditeurs qu'ils avaient livré à la mort le Fils de Dieu. L'évangile rappelle toujours aux hommes le fait qu'ils sont perdus à cause du péché. Mais c'était aussi un message de libération, de grâce et de vie éternelle, puisque Pierre a parlé du pardon des péchés. En prêchant cette bonne nouvelle, Pierre avait l'honneur d'ouvrir pour tous les portes du royaume des cieux. La toute première conversion dans le livre des Actes souligne donc le rôle de la prédication de l'Évangile dans le salut de chaque personne. Mais il y a d'autres leçons qu'il faut puiser du récit de la conversion des 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Ce récit nous montre clairement des choses que le pécheur doit faire pour être sauvé. Pierre a conclu son sermon en Actes 2, 36 par les mots « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Le verset suivant nous dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Actes 2, 37. Il n'y a pas de question plus importante que celle qui a été posée par la foule le jour de la Pentecôte. Que ferons-nous ? Il est vrai que l'Évangile est, avant tout, la bonne nouvelle de ce que Dieu a déjà fait pour sauver des hommes coupables. C'est l'histoire de l'amour insondable de Dieu, démontré dans les souffrances et la mort de Jésus pour tous les pécheurs, même les plus indignes. C'est une offre de pardon, et qui dit pardon, dit grâce ou faveur non méritée. En effet, quand on parle de pardon, il est entendu qu'il y a eu du péché. Or, le péché mérite le châtiment. Quand on est pardonné, on ne reçoit pas le châtiment qu'on a mérité. On bénéficie d'une grâce, une faveur dont on n'est pas digne. On est sauvé des conséquences éternelles de ces actes pécheurs. La question « Que ferons-nous ?» ne signifie pas que le pécheur puisse faire quelque chose pour mériter la faveur de Dieu. Ce n'est pas que nous devons ou pouvons payer notre propre dette, le prix de nos péchés. C'est Jésus qui a payé cette dette pour nous. Mais ne commettons pas l'erreur, comme certaines personnes, de penser que la grâce est inconditionnelle. La réponse à la question « Que ferons-nous ? » n'est pas « Rien ». Jésus a tout fait, c'est automatique. Ce n'est pas de cette façon que Pierre a répondu à ces gens qui avaient été touchés par son sermon. Il y a bien quelque chose que nous devons faire pour recevoir la grâce que Dieu nous offre dans l'Évangile. Après sa résurrection, Jésus a chargé ses apôtres de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et il a bien parlé de conditions que les hommes devaient remplir pour être sauvés. En Marc 16, versets 15 et 16, par exemple, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » En Luc 24, verset 47, Jésus rappela à ses apôtres qu'il avait été écrit d'avance que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Dans ces deux passages, nous voyons trois conditions à remplir par les hommes: la foi, la repentance et le baptême. En revenant à notre texte en Acte 2, nous voyons que toutes ces trois conditions étaient réunies chez ceux qui ont été sauvés après la prédication de Pierre. Quelle réponse donna-t-il à la question « Que ferons-nous ?» Selon Acte 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre a parlé de repentance et de baptême, mais il n'a pas dit aux gens qu'il fallait croire. Faut-il supposer que la foi en Christ n'est pas nécessaire pour être sauvé par lui? Ou bien faut-il supposer que Pierre n'a pas tenu compte des ordres de Jésus quand il répondit à la question? Bien sûr que non. Pierre n'a pas dit à ses auditeurs de croire, parce qu'il était évident qu'ils avaient déjà cru. Le texte nous dit qu'ils avaient le cœur vivement touché. En plus, leur question urgente « Hommes, frères, que ferons-nous ?» montre clairement qu'ils avaient accepté le message que Pierre avait prêché sur Jésus de Nazareth. C'est justement parce qu'ils sont convaincus que ce Jésus qu'ils avaient fait mourir était bien Seigneur et Christ, le Fils de Dieu, qu'ils cherchent à savoir comment se faire pardonner. Ils ont maintenant cru en Jésus. Voilà la base sur laquelle le reste peut se construire. C'est parce qu'un homme croit en Jésus qu'il accepte de se soumettre à sa volonté, d'obéir à ses commandements. Au lieu d'insister sur ce que ses auditeurs ont déjà fait, Pierre a plutôt besoin de leur exposer les autres conditions. Pierre leur dit « Repentez-vous ». Jésus avait bien dit que la repentance serait prêchée en son nom à toutes les nations. Mais qu'est-ce que la repentance? Il s'agit de prendre une ferme décision de se détourner de ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est une décision sincère d'abandonner ses péchés. C'est la chose la plus difficile que Dieu nous demande, parce qu'il s'agit non seulement de nous humilier et reconnaître que nous avons eu tort, mais aussi parce qu'il faut nous priver du plaisir ou de l'avantage que notre péché nous procure. Bien sûr, ces plaisirs ou avantages du péché sont bien passagers, tandis que les récompenses d'une vie de justice sont éternelles. Néanmoins, il nous est souvent difficile de nous séparer de nos péchés, que ce soit des péchés sexuels, l'ivresse, la malhonnêteté, les crises de colère, le reportage, l'idolâtrie, la paresse, l'orgueil, l'amour de l'argent ou les fausses doctrines. Mais difficile ou pas, on ne peut pas dire à Dieu « Je veux que tu me pardonnes. J'ai bien l'intention de continuer à faire tout ce qui te déplaît, à te désobéir quand il m'arrange de le faire. Mais pardonne-moi quand même. » On ne se moque pas de Dieu. Si nous voulons sa grâce, nous devons lutter avec énergie contre les péchés dans nos vies. Beaucoup de ceux qui prêchent de nos jours s'arrêtent au niveau de la foi et la repentance. Ils reconnaissent la nécessité de ces deux étapes pour recevoir le pardon de Dieu, mais ils ne vont pas plus loin. L'apôtre Pierre, par contre, a poursuivi en disant « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Comme Jésus qui avait dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », Pierre a bien précisé que le baptême est une condition du salut. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait des semaines, des mois ou des années après avoir été sauvé. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour témoigner aux autres que l'on est déjà sauvé. Pierre dit aux gens, en Acte 2, d'être baptisé pour le pardon, dans le but de l'obtenir. Si vous avez été baptisé en pensant que vous étiez déjà pardonné et prêt à aller au ciel avant de descendre dans l'eau du baptême, c'est que vous aviez mal compris le sens de cet acte. Si vous avez enseigné à d'autres personnes qu'elles pouvaient recevoir le salut tout simplement en faisant une prière, c'est que vous avez enseigné une fausseté et égaré ceux que vous vouliez enseigner. La Bible est très claire ici. On doit recevoir le baptême dans le but d'être pardonné, grâce bien sûr au sacrifice de Jésus sur la croix. En vue de cette nécessité, il y a bien une urgence dans l'affaire du baptême. Voilà pourquoi nous lisons au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. De nos jours, ceux qui ont déclaré le baptême non essentiel, ceux qui affirment partout qu'il n'a rien à voir avec le salut, ont l'habitude de faire attendre ceux qui désirent se faire baptiser. On veut observer la conduite des candidats au baptême pour s'assurer de leur bonne foi, parfois pendant des années. En même temps, on les assure généralement qu'ils sont sauvés depuis le jour où ils ont pris leur décision pour Christ. Le jour de la Pentecôte, les apôtres n'ont pas estimé qu'ils avaient le devoir d'observer la conduite des gens avant de les baptiser. Ils n'ont pas jugé nécessaire d'instruire les gens dans tous les points très fins de la doctrine du Christ avant de leur permettre de se faire baptiser. Il y avait une urgence. Pierre plaidait avec eux et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Si une personne avait compris qu'elle était coupable devant Dieu, si elle avait cru que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour notre salut, si elle déclarait son intention d'abandonner ses péchés afin de suivre le Seigneur, elle était, comme on le dit aujourd'hui, apte au baptême. Avez-vous fait comme ces 3 000 personnes dont nous avons parlé aujourd'hui? Avez-vous rempli les conditions de foi, de repentance et de baptême pour le pardon de vos péchés? Sinon, n'attendez plus. C'est aujourd'hui le jour du salut.
C'est par l'Esprit que Jésus-Christ, le Seigneur, nous appelle. Va messager, encourager le cœur le plus rebelle. À réfléchir, au repentir, ta grâce efface chaque péché le plus caché. Que Christ soit donc prêché. Debout, 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 au moissonneur.
Debout,
debout,
debout.
C'est l'appel du Seigneur, debout, de grâce, prends place, ne sois plus indécis, debout,
debout,
debout, debout.